Avant de commencer ce nouvel épisode, j'aimerais vous parler d'une grande aventure qui commence pour nous. L'application du village d'une vie slow vit sa première campagne de financement sur Ulule. Le village d'une vie slow, c'est une communauté de parents et de facilitateurs qui vous accompagnent avec des expériences concrètes à vivre en famille pour incarner votre vie slow. Loin des concepts, sans injonction ni culpabilisation, juste une présence inspirante, bienveillante et soutenante. Ensemble, recréons un monde où il est doux de vivre. Un village pour une vie douce et joyeuse, alignée sur vos aspirations. Une vie slow. A tout de suite sur Ulule. Mais pour l'heure, belle écoute. Le cercle d'une vie slow. La série qui vous inspire à incarner un nouveau monde. Pour changer de paradigme, nous avons besoin de nous nourrir autrement, d'entendre de nouvelles histoires. Ici, nous vous comptons nos graines d'inspiration et celles de nos invités. Soyez les témoins d'un nouveau possible, ici et maintenant. Je suis Chloé et vous écoutez les podcasts d'une vie slow. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Cercle d'une vie slow sur le sujet de la créativité et de comment oser en vivre. La créativité. Inventer ce qui n'existe pas encore mais qui nous est soufflé par l'élan de nos joies, enthousiasmes ou encore de nos rêves. Aujourd'hui, nous avions envie de parler d'impossible, d'indicible ou encore d'opportunités bien menées. Mon invitée est un peu la somme de tout ça. Elle se laisse traverser par sa vie et ses envies, tout en nous partageant son cheminement sur les réseaux sociaux et toutes ses créations. Ses créations sont multiples et plurielles. Comme elle, elles sont la somme des facettes d'un diamant qui éclaire nos consciences et nos joies d'enfant au travers de films, de livres et d'autres partages de moments chouettes à vivre en famille. Je suis en joie d'accueillir celle qui s'aligne et rayonne. Ariane est avec nous aujourd'hui. Bonjour Ariane et bienvenue chez Invislo.
Bonjour.
Pour commencer, je t'invite à te présenter et à parler de ton parcours, s'il te plaît.
Waouh. Alors, moi c'est Ariane, je suis très contente de partager ce moment avec toi Chloé. Et me présenter, c'est toujours un exercice hyper difficile parce que ça part souvent dans tous les sens.
Ce qui est bien chez une vie slow, c'est qu'on a le temps et que tout le monde est là tranquillement pour justement te découvrir dans toute la pluralité de ton être en fait. Donc vas-y, laisse-nous te découvrir.
Alors moi, je suis guidée effectivement par ma créativité et j'ai un peu de mal à poser des mots dessus, mais je peux dire que je suis autrice puisque j'écris des livres, je suis illustratrice puisque je les dessine, je suis aussi un petit peu professionnelle de la petite enfance, enfin pas un petit peu, beaucoup, mais disons qu'aujourd'hui maintenant ça se manifeste dans ma façon d'aborder mes livres et c'est plus le métier que j'exerce. Je pratique le yoga et j'ai pas vraiment une manière d'exprimer ce que ça représente pour moi, mais ça fait vraiment partie intégrante de mon être, donc je suis obligée toujours de le mentionner. Le yoga fait partie de moi. Et en vrai, je suis une artiste pluridisciplinaire, en fait. Je fais plein de choses et je me laisse surtout porter. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il y a quelque chose qui va m'appeler et je vais aller l'expérimenter. Donc en ce moment, on va dire la chose la plus récente pour moi, ça a été l'aquarelle. Et je me suis complètement révélée là-dedans. Et puis bah, je suis mon petit chemin. Et j'ai aussi fait une formation de doula postpartum parce que la naissance de mes enfants, ça a été vraiment quelque chose d'hyper bouleversant dans ma vie. Et en fait, chacun d'entre eux, à leur manière, m'a apporté une petite pièce de puzzle en plus pour me découvrir. Et encore une fois, j'ai été appelée par cette formation. Je l'ai suivie avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Et ce n'est pas mon métier non plus, je ne suis pas doula, mais ça fait partie de qui je suis. Voilà.
Moi, il y a quelque chose aussi que c'est par là qu'on s'est vraiment rencontrés, qu'on a pris l'occasion en plein vol. On s'est dit, tiens, là, c'est le moment de se voir. Ça a été notamment pour le tournage de ton documentaire En quête de douceur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que tu as aussi ça à nous partager aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Oui, je réalise un documentaire sur le cheminement en fait d'un parent anonyme, mais c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde, en quête de douceur. On a un passif et quand on devient parent, on traverse comme un bouleversement, que certains appellent la matrescence, et ça remet absolument tout en question. Et à travers ce documentaire, j'avais envie en fait d'emmener avec moi les parents, les non-parents, dans ce questionnement, notamment comment on accompagne nos enfants sans violence éducative ordinaire quand nous-mêmes, on n'a pas les clés ou qu'on a vécu dans ces schémas-là, histoire en fait qu'ils aient un peu plus de douceur, un peu plus de bagages plein d'amour pour qu'eux-mêmes puissent semer leurs graines. Et ça avance, et ça avance en fait en même temps que moi, donc voilà, et j'ai aussi ça.
Ok, super, merci beaucoup pour ton authenticité et le fait voilà, de se présenter, c'est toujours quelque chose, en plus on ne nous l'a pas appris à se présenter, donc... C'est toujours quelque chose de délicat, en fait, d'aborder la présentation qui je suis, c'est aussi un peu se dévoiler et oser reconnaître, en fait, nos talents, éventuellement, voilà, notre chemin, notre cheminement, là où on en est, là où on vit et ce qui nous traverse. Et pouvoir le partager à l'autre, c'est déjà énorme. Donc, je crois qu'on est vraiment beaucoup à avoir des difficultés à se présenter, ça, cette simple question, sache que tous les invités en mode « Ah, ok, alors se présenter, qui je suis ?» Parce que souvent, on nous dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et là, c'est vraiment « Qui je suis ?» quoi. Et ça qui est intéressant aussi pour nos auditeurs, c'est de savoir à quel moment, en fait, on arrive à dire « Qui je suis ?» Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Aujourd'hui, on avait envie de parler ensemble de la créativité. Je crois que juste en te rencontrant et en rencontrant ta présentation, on se rend compte à quel point tu es traversée justement par ce besoin de créativité, de créer et de te laisser concrétiser, matérialiser justement ces élans que tu as. Si tu devais définir un peu le processus par lequel tu passes pour, entre guillemets, ben, oser passer dans la créativité, dans la création, dans la matérialisation de tes enthousiasmes, ce serait comment ? Ça se passe comment pour toi ?
Alors, la créativité, ça a vraiment fait partie toujours de ma vie, ben, vraiment aussi loin que je me souvienne, et dans toutes ses formes. Et en fait, je pense que c'est ma façon à moi de vivre mes émotions, de vivre les gros moments de ma vie. C'est vrai que le processus, même si je change de média, de médium, enfin, je fais pas toujours la même chose, que ce soit la musique, l'écriture, la peinture, etc. Ça vient toujours d'une impulsion du dedans, qui est pas palpable, quoi, qui est complètement abstraite. Et c'est comme si, pour vraiment pouvoir me sentir en phase, il fallait que ça soit hors de moi. Donc voilà, après c'est passé de diverses manières, mais ça me permet d'accepter ce que je vis. C'est très thérapeutique pour moi de créer. Ça n'a pas forcément besoin de rencontrer son public, parce que parfois c'est uniquement pour moi. Et d'autres fois, en partageant, je me rends compte que ça vient résonner chez les autres et ça crée encore quelque chose d'autre. Donc il y a plein de manières de créer. C'est pas non plus ce qu'on imagine. Hein. C'est pas, t'as pas besoin d'être une artiste pour créer. Hein. T'as pas besoin d'être talentueuse ou d'avoir fait des années d'études. Ou, enfin, parce qu'il y a beaucoup de croyances autour de la créativité aussi. Mais ça peut se manifester sur des milliers de formes. Et chacun son process, en fait. Il y a pas une manière d'être créatif dans sa vie. Mais voilà, pour ma part, c'est vraiment ultra thérapeutique, quoi. Et ça part de mes tripes, de mes émotions et parfois même de mes rêves ou de mes visualisations. Comme si par moment je reçois des messages et il faut que ça sorte en poésie ou en aquarelle. Et puis après, en fait, ça vit, enfin, sa propre existence et c'est beau.
Je crois qu'il y a plein de moments en fait, où on est plusieurs, et même les familles que j'accompagne et les parents que j'accompagne, on est traversé comme ça par cet élan que tu peux ressentir. Tu nous as vraiment partagé comme quoi ça partait de ton dedans, de ton intérieur, et que ben pouf, tu le laisses s'exprimer, tu le laisses sortir et entre guillemets rayonner à l'extérieur de toi, et laisser aussi être ce qui doit vivre, ce qui s'est exprimé à l'intérieur de toi, pour le partager et éventuellement contribuer aussi grâce à ce que tu vis, contribuer à ce que les autres peuvent ressentir quand tu parles de résonance. Et parfois je rencontre beaucoup de personnes qui ressentent des choses, tu sais, et qui, justement, sur leur dedans, comme tu dis si bien, leur parlent, s'expriment, et pouf, on met un couvercle en disant « Non, non, mais ça, c'est pas possible. Mais ça, c'est pas possible. » Et c'est comme si, là, tu nous disais « Mais regardez, en fait, ça s'exprime, et je le transmets, et c'est facile, il n'y a pas de... » C'est pas facile, attention, hein. J'ai pas dit que c'était simple, mais en tout cas, ça se fait, ça se met en place. Et il n'y a pas de complications. C'est ça qui est important aujourd'hui pour moi, en tout cas, de témoigner. Parce que je fais partie des créatifs. Je crois qu'on s'est reconnus, toi et moi, quand on s'est rencontrés. Le fait de créer aussi sa vie, sa parentalité. J'aime bien entendre parler notamment de parentalité créative. C'est Catherine Dumontel-Crémer qui a nommé comme ça sa réflexion autour de la parentalité. J'avoue que ça fait sens dans mon cœur quand j'entends la créativité au service de la parentalité. Et je crois qu'on peut vraiment se laisser porter justement par la créativité dans notre quotidien. Et éventuellement l'incarner aussi professionnellement. C'est ce qu'aujourd'hui tu fais, il me semble, avec l'écriture de tes livres, avec les documentaires. Aujourd'hui, tu t'autorises justement à en faire une activité professionnelle ?
Oui, alors en fait, là encore, j'ai toujours créé et je me suis toujours orientée vers des filières créatives, d'une manière ou d'une autre, parce que oui... Comme je disais, j'ai fait une formation petite enfance, mais je suis complètement, pour le coup, en résonance avec Catherine Dumontel-Crémer quand elle parle de parentalité créative. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi que j'avais baptisé ma façon de traverser la parentalité. Et en fait, j'ai toujours laissé beaucoup de place à la créativité, même dans mes études, jusqu'à décider, finalement, d'en faire mon métier au sens propre, c'est-à-dire juste de vivre de... ce qui sort de moi, voilà, au sens le plus poétique du terme, quoi. Et je sais vraiment pas où je vais, en fait, j'ai aucune certitude, seulement le fait que c'est le bon chemin pour moi. Et donc c'est ce que je suis, double sens, c'est le chemin que je suis parce que je me sens vraiment appelée par ça et parce que c'est merveilleux, en fait, de vivre au travers de sa créativité et que sa créativité soit au service de son propre bien-être aussi, de sa guérison intérieure, de sa paix intérieure. Ça contribue énormément aussi à m'accompagner dans ma vie de maman. Et j'ai l'impression que ça aide aussi d'autres parents, d'autres personnes, parce que je rencontre pas mal d'autres humains qui vont vivre tout ça. Et comme tu disais tout à l'heure, qui vont mettre un couvercle sur ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux en se disant « bon, c'est bien joli tout ça, mais on laisse ça de côté ». Eh bien, pour ma part, moi, je n'ai jamais été capable de mettre ce couvercle-là. Ça a toujours été très feu d'artifice chez moi. Mm-hmm. Mais en fait, en voyant ça, les autres se disent « ah, d'accord, c'est que c'est OK. Enfin, c'est que ça peut, on peut peut-être se laisser porter par ce qu'on ressent et ça peut être très joli. Ça peut être même très noir et c'est OK aussi. » Et je pense qu'une part de ma mission est là-dedans, en fait, de juste montrer que si on suit l'élan, on est dans le juste. Il n'y a pas longtemps, là, il y a quelqu'un qui m'a demandé sur les réseaux comment j'ai fait pour me sentir légitime, en fait, pour me lancer là-dedans et pour proposer mes créations. Et je lui ai répondu, je ne me sens pas légitime, c'est juste que c'est la chose à faire, enfin, dans le sens où je le fais parce que ça me fait du bien, parce que je sens que c'est quelque chose qui peut servir le monde d'une manière ou d'une autre. Et parce que, voilà quoi, au pire, j'ai rien à perdre. Au pire, ça fait un flop. Au pire, ça résonne avec personne. Personne ne se trouve appelé par ça. Et c'est pas grave, parce que de toute façon, il y aura toujours quelque chose de nouveau qui va sortir après de mon cœur. Et voilà, ça n'existe pas pour être en haut de l'affiche, pour être admiré, pour faire un truc énorme, en fait. Ça existe là juste parce que c'est là. Et autant que ça puisse servir. Ça me sert à moi déjà, c'est bien. Et parfois, ça peut aussi aller inspirer d'autres âmes, et ça, c'est chouette aussi.
Est-ce que tu saurais nous partager ta vue sur le fait que pour un grand nombre de personnes, aujourd'hui, on met d'une certaine manière, ce couvercle, en fait, sur ces élans-là. D'après toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on hésite ? Tu sais, il y a cette hésitation avant de vraiment réussir à cheminer et pouf, aller dans la concrétisation. D'après toi, ce serait quoi qui empêcherait ?
Il y a plusieurs choses. Je pense déjà, il y a tout ce qui est croyances qui nous limitent. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de croyances autour de la créativité et notamment toutes ces petites voix dévalorisantes du genre « Ah non, mais moi, je ne sais pas faire, je ne suis pas douée, je ne sais rien faire avec mes 10 doigts, etc. » Ben, si tu es appelée par ça, par exemple, tu vas voir passer une jolie illustration, tu vas dire « Oh là là, c'est trop beau, j'aimerais trop pouvoir m'y mettre, mais bon, moi, je ne sais pas peindre. » Enfin voilà, ce genre de choses. Et ben, ça, typiquement, c'est vraiment une croyance qui t'empêche de te révéler. Et, en fait, il y a aussi le fait que dans notre société, on cherche tout le temps à faire quelque chose pour réussir ou pour être premier ou pour être parfait. Ou que voilà, on montre un produit, enfin je dis un produit dans le sens concret du terme, une expérience, un produit. Donc, on va montrer quelque chose de concret et on va s'attendre à ce que les personnes qui l'observent disent « Waouh, c'est magnifique, c'est parfait, c'est beau, c'est merveilleux. » Alors que non, en fait, créer, c'est juste un langage, en fait. Et tu n'as pas besoin de savoir peindre, de savoir écrire ou autre pour te laisser traverser par le processus créatif. Et souvent, le premier blocage, il est là. C'est que les personnes vont se dire « je ne sais pas faire ». Et ce n'est pas vrai. On est tous des êtres créatifs, on sait tous faire. C'est juste qu'on a des attentes envers nous-mêmes de savoir faire parfaitement ou de savoir faire de façon, on va dire, académique. Et c'est là où on va bloquer.
Il y a notamment toute une expérience que propose Arnaud Stern. Je ne sais pas si tu connais Arnaud Stern.
Bien sûr.
qui a créé ce qu'on appelle le jeu de peindre, en fait. C'est justement laisser dans un lieu clos une opportunité à sa créativité sans jugement, sans appréciation, juste avec des règles de bienséance collective, en fait, et d'expression en toute sécurité, se mettre en place. Et s'il y a bien quelque chose qui, à mon sens, permet de se lancer et de faire la paix avec ces attentes qu'on a autour de la création, notamment artistique et art plastique, notamment, qu'on appelle, j'avoue que cette expérience du jeu de peindre, il en existe un peu partout en France. Hein. Il y a des gens qui sont formés au jeu de peindre un peu partout en France, puisqu'il a transmis en fait tout ce qu'il a développé, sa compréhension de cet accompagnement-là, à travers le monde. Et donc, je peux que inviter en fait les personnes qui désirent justement sentir et légitimer cet élan en eux et pouvoir le vivre pour pouvoir dépasser peut-être des croyances qu'on peut dire limitantes. Bah, juste de manière totalement légère, en fait, vivre ça par le jeu de peindre me paraît une jolie opportunité pour laisser être et découvrir justement sa part créative.
Ce qui est chouette aussi avec ce concept-là, c'est qu'on n'est pas autorisé à récupérer son œuvre. Parce que justement, ce qui est intéressant, c'est le processus créatif et non pas le produit fini. C'est pas du tout de se dire « waouh, il est trop beau l'arbre que j'ai peint ». C'est pas ça l'intérêt, c'est juste de prendre plaisir à peindre, de se laisser porter par ce qu'on va faire. On avait fait un exercice comme ça à une époque, donc bien sûr c'est quelque chose qui me parle beaucoup, où c'était donc une dame qui était formée par Arnaud Stern et qui disait qu'on allait faire un dessin et qu'elle choisirait les trois plus jolies. Et là, alors, il y avait un certain style de dessin qui en résultait, parce que tout le monde se dit dans sa tête, même si c'est inconscient, oulala, ça va être jugé, ça va être comparé. Et ensuite, c'est, on va faire des dessins, mais c'est anonyme, personne ne saura, je ne vais pas les montrer, c'est juste entre nous. Et il y a toute autre chose qui ressort de ça, parce qu'il y a vraiment une notion de jugement. Alors après, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a presque cette envie aussi de partager au monde, et ben, c'est vrai que le revers de la médaille, c'est le jugement. Et je pense que ça peut aussi bloquer la créativité. C'est que quand on crée, ok, on crée pour soi, mais si on partage, c'est qu'on veut créer aussi de manière à ce que ce soit vu. Et pas forcément pour qu'on nous dise « c'est beau », mais en fait, il faut être ok avec la raison pour laquelle on va partager ça. Mmh. Et souvent, ben, c'est là que ça va bloquer aussi, quand les gens vont dire « ah non, moi, je me lance pas dans de la poterie » ou dans écrire des poèmes, parce que je suis vraiment nulle pour ça. C'est notamment parce qu'ils savent que ça va être exposé, ou alors que ça va être face à d'autres humains, et ça bloque aussi pas mal. Hein. Mm. Donc, je trouve que cette visibilité qu'on a, cette manière de s'exposer qu'on a, elle est à la fois hyper intéressante. Mm. Parce que, comme je disais, ça permet de faire des contacts et d'aller toucher les personnes qui sont amenées à être touchées par ce qui est traversé dans la créativité. Mais en même temps, il y a ce revers-là. Il ne faut pas oublier aussi que, avec tout ce qui est créatif, surtout quand ça sort de son cœur et de son âme, c'est difficile tout ce qui est jugement, tout ce qui est exposition.
C'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Ariane. Je me permets de rebondir. Il y a quelque chose, pour avoir été artiste de spectacle et du coup seule en scène pendant 6 ans et donc grandi quand même dans le milieu de la danse avec justement cette formation que j'ai suivie, puis après cette profession que j'ai entamée dès l'âge de 17 ans, etc. Il a toujours fallu chercher le mouvement parfait qui reflétait le travail du chorégraphe ou l'émotion qu'on voulait faire passer. Et du coup, c'était le regard de l'autre qui venait légitimer notre travail et légitimer notre compétence et notre valeur. Et c'est vrai que lorsque je suis devenue maman, je ne sais pas toi, mais moi, j'étais habituée 4 fois par semaine à être sur scène et à la fin de mon travail, on m'applaudissait. Donc lorsque je suis devenue maman et que, eh bien, je me suis mise à mettre en place des actes bienveillants, maternants, etc., ben, il y a un moment donné, j'avais besoin qu'on reconnaisse par des applaudissements ou des réassurances en fait de ma valeur de maman et de ce que je mettais en place et qu'on me dise non mais c'est cool quoi. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'est joué en moi en me disant mais en fait je le fais mais pourquoi on m'applaudit pas? Pourquoi on me dit pas c'est cool ce que tu fais, mais oui, t'es fatiguée, mais regarde, c'est fantastique, etc. Et je suis venue aller chercher le grand pourquoi, en fait. Le grand pourquoi je me mettais en mouvement vers ça, vers cet élan qui était hyper important pour moi. Et la danse et mon spectacle et le message que je portais à ce moment-là étaient aussi hyper importants pour moi. Le message que je diffusais, c'était la désacralisation du milieu de la danse et de, en fait, on est des êtres humains normaux et notamment en quête de reconnaissance. Et ça, je crois que tout le cheminement qui est venu m'inviter à faire et à vivre avec une vie slow, ça a été je me mets en mouvement parce que c'est juste pour moi. Tu parlais du rayonnement après de ses œuvres et de ce pourquoi on se met en mouvement. Et en effet, le grand pourquoi je me mets en mouvement permet aussi de se libérer de la réaction ou de la relation à l'autre par rapport à ce que l'on est, ce que l'on rayonne, ce que l'on partage, ce que l'on transmet. Avec l'écriture du livre, notamment, Vivez une parentalité slow, je t'avoue que je disais, oh là là, bon ben voilà, vous aimez pas, c'est pas grave. En tout cas, c'est mon caca à moi. Et mon caca, ben, il est trop cool, quoi, tu vois, parce que c'est mon truc à moi, c'est tout. Et j'ai trouvé ça comme processus, en tout cas, intéressant, parce que justement, ça a pu me libérer du regard de l'autre. Et le fait d'avoir osé être sans attendre les applaudissements du soir m'a permis d'être totalement libre dans mon expression de la créativité et de me libérer des attentes que je pouvais projeter par rapport à l'autre et à qui j'étais au rayonnement de l'autre. Voilà, c'était le partage que j'avais envie de faire par rapport à ce que tu nous avais partagé juste avant. Je trouvais que ça résonnait pas mal.
Ouais.
Pour dire aussi qu'on peut s'en libérer. Enfin, c'est vraiment quelque chose, on n'est pas obligé d'attendre quelque chose et même si, bien évidemment que c'est toujours plus agréable quand ça rayonne et quand ça touche un nombre de gens importants, mais ça ne dépend pas de la survie de notre œuvre en tout cas. C'est ça que j'ai envie de partager.
Ouais, c'est chouette et en même temps, tu vois, tu parles toi aussi d'une forme de processus créatif qui t'a permis de cheminer dans ta vie personnelle, quoi.
Clairement.
Et dans ta façon d'incarner ta vie. Et moi, je sais que c'est ce qui se passe aussi avec mon documentaire. Alors, je prends tout le temps qu'il me faut. Je mets volontairement pas de deadline ni rien parce que j'ai besoin de cheminer à mon rythme.
Mm-hmm.
Et clairement, quand j'ai décidé de le mettre en place, c'est parce que j'avais un vrai problème avec moi-même et qui est un petit peu lié à ça aussi. C'est le côté, effectivement, moi, j'ai toujours tout réussi du premier coup. J'ai toujours été bien félicitée, encouragée sur tout ce que je faisais parce que voilà, j'ai des capacités particulières et de grandes aptitudes, et ça a toujours été mis en lumière. Et le truc, c'est que quand tu deviens parent, bah, c'est très très banal, hein, déjà. Bon, pardon, hein, c'est maladroit ce que je viens de dire, mais
eh oui.
Bon, disons que ça reste quelque chose que, entre guillemets, tout le monde a tendance à faire à un certain âge, blablabla, bon, on entre dans un autre débat, mais qui reste, on va dire, moins paillette, glamour que d'écrire un livre, par exemple.
C'est ça.
Et du coup, d'un coup, bon bah voilà, tes parents, et en fait, là, tu te retrouves à ne plus du tout être premier de la classe parce que tu es face, en fait, à une reconstruction totale. Parce que bon, moi, j'ai dû tout déconstruire pour tout reconstruire. Donc, je crée ma parentalité au jour le jour, hein, avec mes enfants qui grandissent. Et en plus, ben voilà, j'ai 3 garçons. Ils ont tous leur message à délivrer, leur façon de vivre la vie. Et donc, j'ai beau être passée 3 fois par les mêmes âges, et ben c'est jamais la même chose. Donc, c'est vraiment quelque chose où on perd pied constamment. On est tout le temps en train de danser la vie avec nos enfants.
Mmh.
Et c'est à la fois magnifique et à la fois, ça file le tournis parce qu'on est très seul, quoi. Enfin, moi, je me sens très seule dans la mesure où, comme je déconstruis tout ce qu'on peut-être pas m'a appris, parce qu'on m'a jamais appris à être mère, mais tout ce qui s'est toujours fait autour de moi, j'adapte, je crée, comme j'ai toujours fait dans ma vie, sauf que là, on est dans la parentalité. Et en fait, je me suis retrouvée d'un coup à ne plus du tout savoir ce que je faisais. c'est vrai que j'ai toujours été très instinctive et intuitive dans ma créativité et globalement dans ma vie. Mais là, avec la parentalité, il a fallu que je me pose sur des choses très carrées, les neurosciences, il a fallu que je lise beaucoup, que j'échange énormément avec d'autres parents, avec des professionnels. Enfin, j'avais vraiment besoin de m'entourer d'un point de vue presque scientifique, ce qui n'est pas du tout habituel pour moi. Mais finalement, ça a été une autre façon de co-créer, en fait. C'était hyper intéressant, ça l'est toujours. Et le documentaire, il est né d'une incompréhension totale. J'étais complètement perdue et je me suis dit, il faut que je m'aide grâce à ce que je sais faire le mieux, à savoir créer. Parce que c'est vraiment juste comme ça que j'ai pu sortir de mon tourment, en fait. J'étais dans un espèce d'œil du cyclone, j'avais complètement perdu pied, et je me suis dit, il faut créer à partir de ça pour m'en sortir. Et effectivement, c'est ce qui m'a permis d'assumer d'être en burn-out déjà, et ensuite d'en sortir, et de cheminer par la suite, et d'essayer de comprendre petit à petit ma vie. Mais ça a un vrai lien avec le processus créatif, quoi. Et avec le fait aussi que la parentalité, ça déboussole complètement. Et que quand on a, comme tu disais, ces attentes, enfin ces habitudes d'être en scène, dans la lumière, et que tout d'un coup, on se retrouve au fond du bungalow à allaiter derrière, en coulisses, là, personne ne te regarde, personne n'est là pour te dire que ce que tu fais, c'est génial. Et en même temps, il n'y a que toi, quoi. Enfin, il n'y a que toi et ton enfant intérieur qui voit. Et c'est surtout après là-dessus qu'il faut se centrer. Et tu disais aussi qu'à un moment donné, ton projet, il existe, ton œuvre, elle existe, mais le regard des autres ou la façon dont ils vont se l'approprier, ça n'a plus de sens par rapport à ce que toi, tu vis et à comment tu l'incarnes. Et ça aussi, ça a été un moment là que j'ai dû passer, notamment vis-à-vis du documentaire, mais pas que. Ce passage où tu te dis comment vont réagir les gens, est-ce que je suis dans le juste, est-ce que c'est ce qu'ils attendent de moi? Et en fait, tu te décentres total quand tu parles là-dessus, parce qu'on ne crée pas pour répondre aux attentes des autres. Et c'est quelque chose de vraiment fondamental quand on est en train de construire quelque chose, quoi que ce soit. En fait, de juste écouter son propre cœur et de faire les choses pour soi. Et après, oui, ça va cheminer comme ça doit cheminer. Ça va rayonner comme ça doit rayonner. Et il faut vraiment lâcher les attentes. Je sais, c'est facile à dire. Ça reste une bonne leçon de vie, en fait.
C'est un véritable enseignement. J'aime bien parce que c'est une vraie discussion, parce qu'on a beaucoup de choses en commun avec Ariane et on a vraiment des processus similaires. En tout cas, pendant tout le processus de création, d'imagination, de créativité, vraiment de matérialisation, de concrétisation, c'est vrai que nourrir juste par cet élan, et pas est-ce que ça va fonctionner, pourquoi ça fonctionnerait pas, et comment ça peut fonctionner, etc. Ça vient en fait parasiter cet élan créatif et du coup éventuellement mettre en difficulté ce qui va se passer par la suite. Et c'est vrai que pour dépasser comme ça les fameuses limitations que l'on se donne à vivre de son élan personnel et ancré dans qui l'on est et pourquoi l'on est, et etc., se libérer de ce qui va se passer par la suite et s'ancrer encore une fois dans un temps présent, dans un temps offert, hein, le fameux cadeau du présent, nous permet tout simplement d'aller au bout de la créativité, de la création que l'on va proposer. Et attention, là, on est beaucoup sur la création artistique, on est beaucoup sur la création d'un message, etc. Mais aussi créer une entreprise de manière très factuelle, créer son jardin pour s'alimenter de manière très factuelle aussi, créer son couple, créer sa famille, créer son repas. Pour moi, c'est exactement la même chose que de créer un livre, que de créer un film, que de créer des photos, que voilà, ce n'est pas que dans l'aspect artistique. Pour moi, la vie, déjà, c'est une œuvre artistique. Mais alors, du coup, ce qui est assez fantastique avec l'expression de la vie et du vivant, quand on regarde, hein, moi, je sais pas vous, mais moi, quand je regarde la forêt ou quand je regarde la nature, je me dis « Waouh !» C'est une sacrée œuvre artistique, quand même, hein. C'est bien fait, quoi.
Et oui. Mais après, je te rejoins totalement sur le fait que la création, la créativité, ça, ce n'est pas que du domaine artistique, c'est vrai que j'en parle beaucoup aussi parce que moi, je m'épanouis au travers du domaine artistique. Mais comme je disais, quand on parle de parentalité et de créer sa parentalité, on n'est pas obligé de faire preuve de compétences artistiques. C'est simplement d'écouter vraiment son âme, quoi, et réussir à partir des messages qu'on a à l'intérieur de soi, à le projeter à l'extérieur et à en faire quelque chose d'harmonieux dans lequel on se reconnaît, mais ça n'a pas de lien avec l'artistique. C'est vrai que souvent, les gens, ils ont du mal avec ça, parce que moi, je défends beaucoup tout ce qui est la créativité, le fait qu'on est créateur de sa propre vie, de son existence, et qu'on est tous créatifs, mais étant donné que je suis, on va dire, ambassadrice du domaine artistique, puisque je touche un petit peu à tout là-dedans, les gens font souvent l'amalgame. Et c'est bien d'appuyer le fait qu'on peut être créatif dans tellement de choses, y compris dans un tableau Excel.
Clairement.
Voilà, en fait, c'est juste un mot pour représenter la vie. Moi, j'ai toujours dit, bon, c'est peut-être pas hyper juste non plus, mais il y a une phrase qui m'a toujours beaucoup guidée dans ma vie, c'est « créer, c'est exister ». Mais pas dans le sens « si je ne crée pas, je meurs », plutôt dans le sens « exister, c'est la création, c'est la vie, c'est la création ». Enfin voilà, l'espèce de cercle vicieux autour
vertueux, ouais.
De ce simple mot-là, quoi. Créer, ça crée, ça fait aussi un petit jeu de mots en langue des oiseaux. On peut dire la vie est sacrée, et on peut aussi dire ça, c'est dit à, moins, crée.
Et oui.
Voilà. Pour moi, c'est vraiment lié, tout ça, c'est beau.
C'est interconnecté, il y a vraiment une interconnexion pour matérialiser justement ces élans-là, en fait. Se laisser être dans ces élans, c'est aussi se laisser traverser par sa créativité et son « tout est possible ». Il y a quelque chose que j'aime bien transmettre, c'est le fameux « tout est possible », en fait. Il y a quelque chose qu'on me répétait beaucoup, beaucoup, pas toujours de manière bienveillante, puis après j'en ai fait un enseignement bienveillant, mais c'était « à l'impossible, nul n'est tenu ». Ce qui est dit « impossible » ne se retrouve peut-être pas dans une impossibilité, mais dans quelque chose qui n'existe pas encore et qu'on a l'opportunité de pouvoir matérialiser et de pouvoir concrétiser. Et c'est un peu ça aussi qu'on partage avec une Vislo, c'est ce côté, en fait, on ne connaît pas le futur, on ne connaît pas encore le monde qui n'existe pas encore. Par contre, ce qu'on peut, c'est se dire, ah ben tiens, regarde, là, cette personne, elle est en train de vivre quelque chose qui n'existe pas encore et qui vient d'être créé. Ah ben regarde, là, en fait, cette solution zéro déchet, elle n'existait pas encore, mais la personne vient de le créer et ça, c'est faire preuve de créativité. Oh, regarde cette manière, en fait, d'aborder des apprentissages, d'aborder un nouvel univers, une nouvelle compétence. Ça n'existait pas encore et on vient de le créer parce qu'il y a une personne qui s'est connectée à son impossible, à son tout est possible, et qui a pu le matérialiser et le rendre accessible au grand nombre. Et ça me paraît important aujourd'hui de transmettre ce message-là et de le partager, en disant qu'en fait, s'il y a des choses qui nous paraissent impossibles, bon, ça veut dire qu'à un moment donné, ça existera, quoi.
Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Et avec le fait aussi que si ça t'attire, même si ça te semble impossible, c'est que finalement, soit c'est pas encore le moment, soit il te reste encore 2-3 choses à apprendre, et à un moment donné, ça va s'ouvrir. Ou alors, ça va prendre un autre sens, une autre forme. Mais l'impossible en soi, c'est juste un mot, quoi. Et c'est là aussi que la créativité est vraiment hyper intéressante, c'est que avec ce mot-là, juste avec ce mot-là, tu peux tout créer, parce que ça n'existe pas, c'est ce que tu veux, c'est tout ce que tu souhaites. Et moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup guidée, même quand j'étais adolescente. Par exemple, j'étais pas mal perturbée par la notion de mort. Il fallait que je comprenne. Et comme c'est un peu compliqué de comprendre d'un point de vue spirituel, surtout quand on a 14-15 ans, je l'inventais. J'ai écrit énormément de scénarios autour de la mort parce que je crée en fait comme plein de possibilités de comment peut se manifester la vie après la mort. Et ce n'était pas le paradis ou quoi, c'était juste une manière, deux manières, quatre manières d'imaginer la mort. Et ça m'a permis en fait d'apaiser mon anxiété vis-à-vis de la mort, par exemple. Donc, ce n'est pas dire que j'ai apprivoisé la mort ou que je sais exactement ce qui se passe après. Mais grâce à la créativité, j'ai pu, en fait, me sortir d'une espèce de boucle dans laquelle j'étais adolescente. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est qu'on peut absolument, dans tous les domaines, et quand on en ressent le besoin, juste se connecter à cette part-là en soi, qu'on a tous, et en fait, se sentir mieux.
De manière très factuelle, notamment pour la préparation à la naissance de notre petite déesse qui est arrivée il y a quelques mois, j'avoue que on a fait preuve de créativité dans le sens où on a choisi l'accouchement à domicile, mais il a fallu qu'on parcourt en fait les différents scénarios qui pouvaient arriver et comment on allait vivre et comment on allait pouvoir être en action et surtout le traverser dans n'importe quelle situation de manière bienveillante et qui respecte qui nous sommes. Donc on a pu balayer en effet le fait d'être transféré à la maternité, du coup d'avoir accès à une péridurale, d'avoir accès à une naissance instrumentée, d'avoir accès à une césarienne, d'avoir accès à la mort de moi ou de notre petite déesse. Enfin, voilà. Et du coup, on a pu vraiment, en fait, encore une fois, grâce à notre créativité, transformer, en fait, quelque chose et se préparer à un événement serein, en fait. Parce qu'on avait pu parcourir, grâce à notre imagination, à notre créativité, à notre force de communication et de relation, le vivre et se préparer à cet événement qui est quand même fort et qui comporte multiples possibilités. Donc en fait, de manière très concrète, c'est vraiment une notion qui permet, et tu l'as justement partagé, dans le sens où ça permet de transformer parfois juste des inquiétudes ou nous aider à traverser des moments de vie qui sont plus ou moins agréables en fait.
Et pour pouvoir rebondir sur ce que tu dis, mon troisième petit garçon est aussi né à la maison et juste avant sa naissance, en fait, j'ai dépassé le terme et il me manquait justement d'avoir réglé ces petites questions-là. On avait beaucoup préparé d'un point de vue concret, factuel, les listes, les machins, la sage-femme, tout ça, tout ça. On s'était bien préparé aussi à être transféré à la maternité et compagnie. Mais j'avais omis la possibilité qu'on puisse mourir. Et je l'avais complètement mis sous le tapis, en fait. Et bien sûr, toute la culpabilité autour. Et juste avant sa naissance, j'ai fait une visualisation. Je suis allée à son contact, à mon bébé, et on a échangé tous les deux. Et en fait, on s'est rassurés mutuellement. Mais ça se passait que dans ma tête, hein, on est d'accord. Mais via cet élan créatif, je suis allée me rassurer sur le fait que de toute manière, il allait se produire ce qu'il allait se produire et qu'il fallait que je sois OK avec ça. Et donc, j'ai pleuré à peu près toutes les larmes de mon corps et la naissance s'est mise en route. Et il est né quelques heures après, en pleine santé. Mais pour dire à quel point, parfois, vraiment avec cette imagination débordante qu'on a, qu'on peut avoir, on peut vraiment aller débloquer des choses hyper intenses et hyper puissantes. Et là, on parle d'accouchement et on parle de choses qu'on ne maîtrise pas, oui. Dont on n'a pas le contrôle. Mais ça marche aussi pour tout ce qui est du passé, parce que on n'a pas le contrôle sur ce qui s'est produit. Donc parfois, on a du mal à accepter, à pardonner. Je sais que toi non plus, tu n'as pas eu un passé très, très facile. Pour ma part, j'ai traversé quelque chose d'assez douloureux, une remontée au conscient. Donc, j'avais complètement oublié des passages de ma vie. Et quand c'est revenu, parce que j'étais enfin prête à entendre, à voir et à me rappeler de ce que j'avais vécu, ça a été apocalyptique, vraiment. J'ai cru que je n'allais pas me remettre en fait, enfin, j'ai cru que j'allais mourir en fait de ces souvenirs-là. Et c'est uniquement parce que je me suis connectée à mon don de création que j'ai pu m'en sortir, parce que il n'était pas question d'abandonner ma famille déjà, et ça m'a vraiment permis de remonter la pente. Et là, je me suis dit vraiment, l'art dans son ensemble, mais même juste la création en soi, c'est une force guérisseuse incroyable.
Il y a bien quelque chose que je peux témoigner pour avoir justement évolué depuis l'âge de 3 ans dans la création artistique, dans la transformation par l'art, danser, l'art écrit, l'art d'expression théâtrale, l'art de la peinture, etc. C'est aussi là où on se connecte à l'élan de vie et de survie, en fait. Dans les moments où où la réalité, la matérialité nous paraît invivable, la création ouvre d'autres possibilités et d'autres éléments de transformation, de transmutation et donc de remise en mouvement qui nous connecte à l'élan de vie et qui nous permet justement de nous remettre en mouvement lorsqu'on sent que là, la mort s'approche de notre véhicule corps et de notre matérialité. Donc oui, si j'ai quelque chose à partager, en effet, la créativité nous connecte, je crois. J'en ai la conviction. pour l'avoir expérimenté et c'est ce qui m'a permis, moi, de me connecter à l'élan de vie et de survie. C'est de pouvoir éventuellement continuer à se remettre en mouvement par la création d'un présent, d'une histoire, d'une transformation par la matérialisation d'une œuvre plastique dans le sens matériel, transformatrice, transcendante, qui nous permet justement de traverser ce qui est désagréable, le mot est bas, hein, mais ce qui est désagréable ou confrontant ou tout simplement impossible à sentir, en fait, ce qui est trop douloureux. Et la douleur peut être transmutée, transcendée par l'acte de création. Donc finalement, hein, c'est un sacré sujet, la création, et oser en vivre et oser l'incarner, c'est s'offrir justement, je crois, la douceur de vivre. Qu'est-ce que t'en penses ?
C'est beau et c'est totalement vrai. et ça vaut pour tellement tout. Et tu vois, par exemple, voilà, je vais avoir des façons de créer artistiques qui vont me sembler accessibles parce que voilà, on va dire, je suis assez à l'aise avec l'écriture, par exemple, ou je me suis bien connectée à mes pinceaux ces derniers temps. Mais il y a des moments où, en fait, c'est tellement fort, les émotions. Aussi, parfois, ça te tombe dessus que c'est impossible, en fait, tout bloque. Et dans ces cas-là, faut pas chercher à forcer, même si on sait que ça peut nous faire du bien, pas chercher à forcer. Et surtout, on peut être surpris par... ça peut prendre un autre sens. Je me rappelle de cette anecdote très triste en 2019 où j'ai appris une annonce vraiment bouleversante et j'arrivais pas du tout à me remettre en marche. J'arrivais pas à me remettre en mouvement. J'étais complètement abattue par cette nouvelle qui, en plus, me concernait pas personnellement, mais bah, voilà, avec un... Enfin, je suis connectée à la vie autour de moi et du coup, j'arrivais pas à passer outre cette triste information. Et en fait, il a fallu que je danse, alors que pour le coup, la danse ne fait pas partie de mes arts de prédilection, on va dire. Et c'est vraiment seulement en me mettant à danser sur mon balcon, en fait, en me laissant traverser par la musique et par le mouvement, sans du tout chercher à intellectualiser, à faire du figuratif, à représenter quoi que ce soit, que ça a enfin réussi à sortir. J'ai quand même les larmes faciles comme fille. Je pleure beaucoup et très facilement. Ça ne me pose aucun problème. Mais là, j'étais complètement coincée. Et je sais que c'est magnifique pour nettoyer les larmes. Ça fait vraiment passer les choses. C'est une manière de dire au revoir dans tous les cas de figure quasiment. Et là, le fait de ne pas réussir à pleurer, j'étais vraiment coincée. Ça m'a vraiment bouleversée.
Ouais, c'était figé, quoi.
Voilà. Et danser, en fait, à relancer la machine, du coup, j'ai pu pleurer, j'ai pu ensuite me reconnecter à ce que j'étais plus habituée à faire, et ça m'a permis de faire le deuil de cette histoire-là. Mais comme quoi, faut pas rester bloqué dans quelque chose qu'on pense bien faire d'un point de vue technique, où on va se dire, bon voilà, j'ai une facilité, donc je vais rester dans ce média-là, ou je vais me bloquer là-dedans, parce que par moment, on peut juste être complètement transformé par une autre expérience. Parce que parfois, on peut juste être surpris par d'autres expériences sans s'y attendre.
Ah ouais. Ne pas se limiter à l'art ou au vecteur d'expression que l'on juge comme étant bon pour nous ou qui incarne qui l'on est et se laisser surprendre en fait par les propositions qui nous sont traversées. Merci beaucoup, Ariane, pour cette discussion riche, enrichissante. On te retrouve sur ton compte Ariane Saligne sur Instagram. On te retrouve bien évidemment dans tes œuvres littéraires pour oser le yoga en famille ou avec les enfants ou sans les enfants, avec aussi des activités. Waouh, tu en as écrit beaucoup, beaucoup, hein, des livres qu'on peut tous retrouver sur ton site et directement via ton compte Instagram et ton lien Linktree qui est bien fourni pour et qui représente bien ta multifacette, ta pluralité. Merci beaucoup, Ariane, de ta présence à nos côtés et de ton témoignage.
Merci beaucoup, c'était vraiment très sympa.
On se retrouve, on vous retrouve, chers auditeurs, dans l'after des podcasts d'Une Vie Slow, le samedi 24 octobre à 17h, en live sur Instagram, pour répondre à vos questions et puis aussi pour partager justement vos expériences. On sera ravis d'en parler avec vous, avec Ariane. Oui, chers auditeurs, on vous invite justement, et bien dès à présent, à réfléchir et à mettre de la créativité dans vos vies, à oser le vivre dès à présent. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations pour incarner votre vie slow sur notre site www.unevieslow.fr. Retrouvez nos podcasts qui vous inspirent et vous donnent de l'élan. En vous abonnant, en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, à le partager autour de vous et surtout, vous pouvez aussi le dire à notre invité sur les réseaux sociaux et sur les nôtres. C'est ce qui nous aide le plus. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. Je vous souhaite une vie douce et joyeuse, alignée sur vos aspirations et une vie slow. Salut !